Gracianopolis. Yvan Mazel, Rémi Vigneron, l'émission sur la métropole grenobloise, Radio Campus Grenoble 90.8. Bonjour à tous, bienvenue dans la 13e émission de Gracianopolis sur Campus Grenoble 90.8. Vous écoutez votre émission mensuelle d'information et de débat questionnant l'évolution de la métropole grenobloise. Aujourd'hui, dans Gracianopolis, on va parler de la Maison de la Culture, deuxième génération, autrement dit la MC2, et plus particulièrement de son rôle au sein de la ville. Comme à notre habitude, nous serons accompagnés d'un invité. Aujourd'hui, nous accueillons Renaud Contrat, membre de l'équipe de la MC2. Quant à nous, nous sommes toujours ensemble avec Yvan pour mener cette émission. Bonjour Yvan.
Bonjour Rémi.
Yvan, je te laisse présenter l'émission.
Dans Gracianopolis, aujourd'hui, on s'intéresse à la Maison de la Culture de Grenoble, cet étrange paquebot blanc que l'on découvre depuis les fenêtres du tramway de la ligne A en traversant l'agglomération de Grenoble du nord vers le sud. Avec un œil attentif, on reconnaît avec sa façade noire et blanche le grand bâtiment inauguré en 1968 et à ses côtés un bâtiment en béton et en verre, son extension construite entre 1999 et 2004. La Maison de la Culture de Grenoble, bien qu'inaugurée l'année des Jeux Olympiques en 1968, fait partie d'un large projet d'André Malraux qui, depuis 1959, était à la tête du tout nouveau ministère des Affaires culturelles. Les Maisons de la Culture font partie d'une politique de décentralisation des lieux de spectacle depuis Paris vers les régions et d'une politique de démocratisation de la culture, un accès pour tous aux œuvres artistiques. La vision de Malraux était que les œuvres d'art devaient être montrées telles quelles au public, pour qu'ils éprouvent un choc artistique. Cette vision excluait la médiation culturelle, mais encore plus l'éducation populaire. Les maisons de la culture devaient être des lieux de représentation artistique du cinéma, du théâtre et de la musique. Cette politique devait se développer dans toute la France. Chaque département devait avoir sa maison de la culture, mais faute de moyens, il n'en sera finalement construite qu'une dizaine. Après mai 68, ces grands équipements symboles du pouvoir culturel ont été critiqués, accusés de porter une vision élitiste de l'art. De nombreuses communes vont alors intégrer ces équipements à leur action culturelle locale et vont les développer comme des lieux d'art pour tous les âges et vont mettre de nouveau en place une politique de médiation artistique. Les maisons de la culture accueilleront par la suite en leur sein des structures de création artistique et restent encore aujourd'hui des équipements culturels majeurs.
La première raison d'être de cette maison de la culture, c'est que tout ce qui se passe d'essentiel à Paris doit se passer en même temps à Grenoble. La civilisation des machines et de la science, la plus puissante civilisation que le monde ait connue, n'a été capable de créer ni un temple, ni un tombeau, ni, ce qui est plus étrange, son propre imaginaire. Jamais on n'avait vu, au service du génie du russe Tolstoï, une actrice suédoise et un metteur en scène américain faire pleurer les hommes de New York à Calcutta. Mais jamais une pareille soumission à l'infantilisme n'aura proposé à tous les hommes de la Terre un peuple de rêves qui ne signifie rien au-dessus de 15 ans. Les rêves n'ont pas d'âge. Ils peuvent appartenir à une enfance qui est le pôle secret de la vie ou à une enfance qui en reste le balbutiement. Pour la première fois, les rêves ont leurs usines, et pour la première fois, l'humanité oscille entre l'assouvissement de son pire infantilisme et la tempête de Shakespeare. C'est pourquoi la culture doit être tôt ou tard gratuite comme l'est l'instruction. C'est pourquoi cette maison, si vaste qu'elle vous paraisse aujourd'hui, appellera sans doute dans 20 ans de nombreux relais. Le grand combat intellectuel de notre siècle a commencé. Mesdames et messieurs, cette maison y convie chacun de vous. Parce que la culture est devenue l'autodéfense de la collectivité, la base de la création, et parce qu'elle est devenue l'héritage de la noblesse du monde.
On a aujourd'hui le plaisir de recevoir Renaud Contrat. Alors Renaud Contrat, ça fait plus de 10 ans que vous travaillez à la MC2, où vous avez occupé un très grand nombre de postes. Aujourd'hui, on vous reçoit car vous êtes attaché aux relations avec le public, coordinateur des activités extérieures et responsable de l'accueil de la MC2. Et vous êtes également danseur, ce qui vous permet d'avoir une autre relation au lieu. Alors bonjour Renaud Contrat et bienvenue dans l'émission.
Bonjour à toi, bonjour à vous. Et oui, je suis plutôt danseur que chanteur, c'est bien de préciser.
Alors l'introduction de l'émission se terminait sur le discours d'André Malraux, chargé de la culture de 1958 à 1969. Alors dans un premier temps, Renaud, pouvez-vous nous retracer les grands traits de l'histoire de la Maison de la Culture, donc depuis son inauguration en 1968 jusqu'au début des années 2000?
Alors effectivement, un petit mot en préambule rapide, c'est... Toujours, on va dire, un peu émouvant, même pour moi, d'entendre Malraux dire ce qu'il vient de dire, parce qu'en fait, on va dire que tout est posé dans ce discours, même si bien évidemment, quand on commence à aller dans le détail, et j'allais dire les jeunes étudiants aujourd'hui qui sont, par exemple, pour les citer, en master de direction de projet culturel, discutent de la portée et de certaines phrases de ce discours, tout est là, c'est-à-dire comment apporter du rêve, comment amener des équipements proches du citoyen, comment étendre les relais futurs, alors relais physiques, salles de spectacle ou personne. Là, je veux bien évidemment là faire allusion à la médiation culturelle. Voilà, donc c'est un petit mot pour dire que voilà, c'est quand même toujours assez étonnant d'entendre Malraux prononcer ces mots. Et effectivement, de façon assez synthétique, cette maison, elle est passée par plein d'étapes entre 68 et 99. L'idée de base était de se dire dans ce grand espace qui n'était pas vide. Hein, là, on parle vraiment de géographie de la partie sud de Grenoble. Il y avait donc des champs, il y avait des fermes, il y avait notamment, certains s'en souviennent et connaissent le nom, la ferme Prémol, village olympique, qui était une vraie ferme. Hein, on a complètement oublié que c'était une vraie ferme. Il y avait un aérodrome Jean Mermoz. Et l'idée concrètement était de dire, on va positionner ici cet équipement fédérateur central, d'une certaine manière, à cet endroit pour qu'il lance un développement futur du sud de cette ville. Donc ça a été effectivement le tout début 68. Et puis évidemment le fameux lien avec les Jeux Olympiques, c'était évidemment corrélé, hein, ça n'est pas un hasard. Et puis après c'est passé par des étapes de l'arrivée de créateurs à la tête de cette maison. Je parle clairement de Jean-Claude Galota qui était directeur de cette maison, qui lui à un moment a choisi ce nom du cargo, pour plein de raisons qui lui appartiennent, mais pour certains, ça parle. Effectivement, quand on est devant cette maison, on peut penser à une coque à vent, d'un gros paquebot, d'un cargo. Donc ce nom est resté quasiment une dizaine d'années, jusqu'à ce moment où on a commencé à penser, et notamment un ministre a peut-être travaillé à une reconstruction et à réadapter cette maison qui avait quand même un petit peu vieilli, à dater de 68. Et là, on était quasiment à l'orée de 96, 97, 98.
Alors justement, on parlera de cette reconstruction dans la deuxième partie de l'émission, mais on va tout de suite illustrer vos propos avec une interview réalisée en compagnie d'Antoine Péqueur que nous retrouverons à plusieurs reprises dans cette émission. Donc Antoine Péqueur, c'est le conseiller musique de la MC2 et il nous a fait le plaisir de nous accorder une interview en novembre dernier où il partage à travers son regard de musicien sa vision du lieu. Et dans cet extrait, il nous explique pourquoi la MC2 se trouve à la jonction entre le centre-ville, la ville historique de Grenoble, et la nouvelle ville des années 70.
La localisation de la MC2 dans ce quartier-là, pas très loin des Chérones, qui est aujourd'hui évidemment au cœur de l'actualité. Pour moi, cette localisation, c'est un atout, vraiment, de la MC2. Et on le voit d'ailleurs, la plupart des grandes salles de concert, ben, c'est celles qui ont été construites en dehors du centre. La Philharmonie de Berlin, quand elle a été construite, il y avait le mur à Berlin, et c'était à l'extrémité de Berlin-Ouest, à quelques encablures du mur. C'est-à-dire que la Philharmonie de Berlin, elle a été construite dans un no man's land total. Je prends cet exemple. Si on se limite aux salles de musique dite classique, la Philharmonie de Paris, elle est construite dans le nord-est de Paris, à la porte de Pantin, pas un lieu central du tout. Et pareil à l'étranger, Parco della Musica à Rome, c'est le quartier de Flaminio, un ancien quartier olympique, un peu à l'écart de la cité éternelle. Et ou encore la Casa della Musica à Porto, là aussi à l'extérieur, dans un ancien atelier de tramway, enfin voilà. Pourquoi ? Parce que quand on implante ces salles-là, on a plus d'espace disponible, donc on peut se faire plaisir avec des salles et de véritables équipements, ça, premièrement. Et deuxièmement, on va à la rencontre d'un autre public, parce que le public traditionnel de la culture, des arts, de la musique classique, c'est souvent un public de centre-ville, bourgeois, et bien, par exemple pour la musique classique, et bien là, on est dans un autre quartier. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a quand même le public classe moyenne, bourgeoisie du centre, qui va venir parce qu'on a une programmation artistique qui est convaincante et donc on les attire, sinon de toute façon ils ne vont pas au concert. Et de l'autre côté, là, on a un potentiel de public qui pensait que ce n'était pas pour eux, qui viennent parce que c'est proche, que c'est pas cher. Les concerts, regardez le prix des places de concert, certains concerts, c'est moins cher qu'une place de cinéma. Et vous avez des artistes en chair et en os. Tout ça fait que, ouais, je pense que c'est vraiment une très bonne idée, cette situation-là et ce brassage des publics.
Alors, on comprend bien dans cet extrait l'intérêt de l'ancrage territorial. Alors, si on veut s'appesantir un moment sur le développement du sud de la ville, Renaud, concrètement, comment la Maison de la Culture est-elle connectée au quartier sud et quels programmes et activités sont mis en place à Grenoble dans le cadre de la politique d'André Malraux ?
Alors là aussi, évidemment, on fait un saut arrière dans le temps, puisque le petit lien important à rappeler, c'est qu'il y avait très précisément des passerelles, hein, c'est-à-dire au niveau de la construction, et là on fait un lien avec l'architecture, il y avait vraiment une série de passerelles qui étaient censées relier à partir de la Maison de la Culture jusqu'au quartier sud, ce qu'on appelle aujourd'hui les deux Villeneuves, la Villeneuve côté Échirolles et la Villeneuve côté Grenoble. Et c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens, évidemment, à Grenoble qui se souviennent de ce réseau de passerelles qui permettait, en gros, d'être au-dessus du niveau de la rue, de là où circulaient les voitures, pour déambuler et aller, en gros, alors donc évidemment, là on est vraiment dans ce moment de l'utopie, à la Villeneuve, ce fameux quartier utopie, jusqu'à la Maison de la Culture qui, quelque part, portait une part d'utopie à cette époque-là.
Et alors, est-ce que c'était le seul lieu de culture ou est-ce qu'il y avait d'autres endroits ?
Alors, si, là aussi, dans les années 70, il y avait évidemment, puisque sinon cette maison n'aurait pas vu le jour à Grenoble, il y avait des associations très en pointe dans le domaine de l'éducation populaire, dans le domaine du théâtre, des associations très très fortes, qui ont d'ailleurs présidé à un moment à l'ouverture de cette maison et ont fait partie très clairement du fonctionnement et de la gouvernance de cette maison à l'ouverture en 68. C'est une des raisons, indépendamment des raisons politiques dont on ne parlera pas ici, évidemment, c'est pas l'intérêt de cette émission, qui ont fait que cette maison a été construite et a été notamment inaugurée par ce fameux discours qu'on a entendu tout à l'heure d'André Malraux. Et l'idée était très pratiquement de mélanger un certain nombre de choses qui aujourd'hui ne sont plus dans le même espace, c'est-à-dire l'équivalent d'MJC, bibliothèque, artothèque, cinéma art et essai, association de théâtre, association de danse. Et évidemment, on en vient à la base, la Maison de la Culture est bien une salle de spectacle, c'est bien de le rappeler, avec des salles de spectacle pour montrer des spectacles.
Alors là, on a un bon aperçu de la Maison de Culture première génération. On l'évoquait tout à l'heure assez brièvement, la Maison de la Culture a fermé ses portes entre 1999 et 2004 pour un vaste chantier de rénovation dirigé par l'architecte Antoine Stinko. Pouvez-vous nous décrire quelques-uns de ces espaces de la culture avant la période de rénovation ?
Alors, il y avait ce qui nous fait assez rire aujourd'hui, il y avait une salle de télévision, par exemple, puisque la télé n'était pas du tout dans tous les foyers, loin de là. Aujourd'hui, ça paraît un peu désuet. Il y avait une grande salle, une petite salle qui avait, pour être clair, vieilli. Hein, là, je fais le lien avec effectivement ce projet qui a commencé en 99. Pour être très précis, ces salles étaient des salles qui avaient une courbe de visibilité pour les spectateurs qui était assez moyenne. Par contre, si on parle là d'architecture des espaces publics hors salle, il y avait des très très beaux espaces. Alors effectivement, l'architecte, il faut le citer, Wojcinski, avait imaginé de très très grands espaces, du béton brut qu'on retrouve d'ailleurs dans des bâtiments de l'époque, par exemple le conservatoire, la mairie de Grenoble, du marbre blanc au sol, et puis tout un travail très très proche d'ailleurs de la conception de Le Corbusier sur la façon de gérer les espaces et la façon dont les gens se déplacent dans un espace donné.
Thank you.
quelle musique pour quel lieu. On ne programme pas toutes les musiques dans un lieu comme l'auditorium de la MC2. L'auditorium de la MC2, c'est une salle d'une jauge de 1000 places, une salle de forme elliptique qui, en matière d'acoustique, a beaucoup de réflexion latérale, en plus du son direct, donc une acoustique très enveloppante avec un temps de réverbération assez important. Ce qui explique que, par exemple, un grand orchestre symphonique, ce ne sera pas la bonne salle pour une telle formation, pour une question simplement de volume. Par contre, cette salle, elle sera idéale pour un orchestre de chambre, pour des formations jouant sur instruments anciens, qui là, par la magie de l'acoustique, les instruments sont vraiment portés et le son passera au mieux auprès du public.
Nous venons d'écouter de nouveau Antoine Péker, et en accompagnement de ses propos, nous avons entendu les premières minutes du moment final de la symphonie numéro 36 de Mozart, jouée par Aurora Orchestra, que vous pourrez découvrir à la fin du mois de mai à la MC2.
Vous êtes bien dans Gracianopolis sur Radio Campus et nous sommes toujours en compagnie de Renaud Contrat. Alors juste avant la pause musicale, nous parlions de la Maison de la Culture. Nous abordons maintenant sa deuxième génération qui la verra devenir la MC2. Alors suite à sa fermeture pour rénovation entre 1999 et 2004, on remarque que l'aspect extérieur, la fameuse coque de Wojcinski qui est en béton, n'a pas été modifiée puisqu'elle fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui patrimoine du XXe siècle. Alors, quels étaient, Renaud, les objectifs du projet de rénovation et quels sont les nouveaux espaces de la MC2 ?
Ben, pour repartir, effectivement, là aussi, de ce qu'il y avait juste avant, il y avait, par exemple, dans cette maison historique de 68, un théâtre mobile qui était une scène tournante, qui était, là, pour être très clair, dans le domaine de l'utopie, puisque sur le papier, ça fonctionnait très bien. Et puis, dans la réalité, c'était un petit peu compliqué. Pour un détail que je vous donne très rapidement, énorme roue d'acier pour faire tourner cette fameuse scène qui permettait, par exemple, d'avoir le public au milieu et le décor qui tournait autour ou l'inverse. Mais je caricature un peu, mais quasiment à chaque représentation, il fallait changer ou entretenir cette scène, ce qui devenait économiquement un petit peu compliqué. Mais en tout cas, c'était une façon très intéressante de concevoir la façon de faire voir du spectacle au public. Et donc le lien avec cette nouvelle maison et cette reconstruction qui a duré 5 ans, se dire notamment qu'il manquait un auditorium depuis une quinzaine d'années, c'est quelque chose qui était pointé dans le sud-est de la France et notamment à Grenoble. Et donc évidemment l'idée assez logique, projet de reconstruction, grande maison de la culture, on va essayer d'intégrer au programme architectural la construction d'un auditorium, et cet auditorium a pris la place du théâtre mobile de 1968. Et puis deuxième axe très important, c'est pour moi les deux axes majeurs, c'est inventer et construire concrètement des vrais espaces de travail pour les artistes adaptés aux années 2000, c'est-à-dire des studios de répétition, des salles de répétition de théâtre, pour en faire ce qui est aujourd'hui, en 2016, la première scène nationale en termes notamment de production et de création de spectacles. Ça veut dire qu'on met beaucoup d'argent sur la table à la MC2 pour aider des artistes à créer leur spectacle.
Alors Antoine Péker a également un point de vue sur l'évolution de l'aspect extérieur, notamment la construction d'un immense escalier en guise de parvis.
Au moment donc de la reconfiguration, de la rénovation de la MC2 et de cette extension, il y a eu l'idée de créer cet auditorium à la place de cette scène théâtrale tournante. Et là, sans doute, c'est la plus belle pièce, architecturalement, acoustiquement parlant, de la rénovation, puisque là, on a quelque chose, pour moi, qui fonctionne très bien. Alors, erreur architecturale grossière, faut dire, on dit les choses comme elles sont, l'escalier monumental qui amène ça. Il faut quand même penser que Hans Scharoun, quand il fait la Philharmonie de Berlin, dans les années d'après-guerre, déjà supprime l'escalier. Parce que l'escalier, c'est les vieilles salles. Alors là, en plus, en Allemagne, les vieilles salles, toutes ces générations qui a conduit les nazis au pouvoir, Beethoven écouté par les nazis, bref, c'est la réflexion d'Adorno. On n'a pas le temps et c'est peut-être pas le lieu de développer ça. Mais c'est quand même important parce que ça a un impact architectural. Et donc, quand il fait la Philharmonie de Berlin, c'est de plein pied. Ce qui est une idée qui paraît de base, mais pour éviter voilà, le côté inhibant des escaliers. Là, à Grenoble, on met ces escaliers. Va-t-on savoir pourquoi ? Voilà. Par contre, quand on arrive, on a cet espace de béton. Certains vont dire peut-être un peu froid, un peu côté bunker. Moi, je trouve que le béton, bien utilisé, c'est juste le matériau le plus beau, le plus chantant au monde. Enfin, voilà, on a un bel exemple avec Perret ici à Grenoble, et puis plein d'autres. Mais en tout cas, pour moi, ce béton à la MC2, il me parle beaucoup. Moi, vraiment, il m'a toujours parlé. Il m'a raconté beaucoup d'histoires parce que je le vois comme un sas. Un sas avant d'aller dans la salle de concert. On est dans cet univers du béton, de quelque chose, pas forcément d'ailleurs avec une grande hauteur sous plafond. Et on arrive ensuite dans l'auditorium, le bois, la nature. Là, évidemment, un volume important. Et donc là, il y a ce contraste entre cet univers de béton, peut-être un peu dur, urbain, et de rentrer dans cette salle en bois, évidemment, le lien nature-montagne qui est évident, d'autant plus à Grenoble, et avec, là, pour le coup, un lien entre scène et salle magnifique, de par la forme elliptique.
Alors aujourd'hui, la MC2 n'est pas seulement un centre culturel dont la programmation se cantonne à des spectacles en intérieur. À la MC2, vous parlez d'une programmation hors les murs. Et il semblerait que dans le cadre de la thématique de cette saison, architecture et musique, que nous aborderons juste après, la MC2 prévoit des événements culturels dans certains lieux phares de notre métropole.
Quel est l'intérêt du coup d'avoir ces représentations, cette expression musicale dans ce type de lieu en dehors de... bâtiment de la MC2.
Alors pour moi, il y a deux aspects là-dedans. L'aspect, on va dire, il y a l'aspect macro et micro, si on peut faire une métaphore économique. Le côté macro, c'est que je pense que c'est essentiel que la MC2, qui peut parfois être perçue comme un lieu inhibant, on ne va pas revenir sur l'escalier, mais inhibant pas seulement l'escalier, la localisation aussi quand même un peu excentrée. Bref, il est important, je pense que la MC2 parfois aille aussi dans d'autres endroits de la ville, pour proposer, pour aller à la rencontre aussi d'un autre public, éventuellement. Et puis, le côté micro, c'est que dans ma programmation, j'ai un thème cette saison qui est le thème musique et architecture. Et donc, réfléchir à ce lien-là, pour moi, ça passait par l'occupation d'autres lieux dans Grenoble, notamment ce garage hélicoïdal. Ça, c'est quand même de toute beauté, très peu connu, malheureusement peu connu de beaucoup de gens. Et mon idée là-dedans, c'est d'imaginer une déambulation au travers d'un cycle d'œuvres de Karlheinz Stockhausen, grande figure de la musique du XXe siècle. Stockhausen a écrit les Tierkreise après les signes du zodiaque. L'idée, c'est que les musiciens joueront les différents morceaux liés aux signes des zodiaques. Le public évoluera et le but, c'est que le public retrouve son signe. Enfin, on espère pouvoir faire un concert à la Tour Perret. C'est parce que là aussi, on a un lieu très intéressant d'un point de vue musical, déjà parce que Perret a un lien très fort avec la musique. Il a notamment parlé de ce rapprochement entre architecture et musique dans sa correspondance. On a de très beaux témoignages là-dessus. Auguste Perret a construit, je le rappelle, le théâtre des Champs-Élysées, une des premières salles de spectacle en béton, ou encore la salle Cortot, une salle de musique de chambre à Paris. Donc petit hommage à Perret avec cette tour qui là aussi est pour moi un chef-d'œuvre. Il y a des gens qui trouvent ça moche, mais c'est souvent l'ignorance qui donne, fait avoir ce type d'avis, parce que si on connaît un peu la démarche de Perret, le contexte dans lequel a été construite cette tour, c'est passionnant. Puis aujourd'hui, il y a ce parc en bas, donc ça nous permet, puisqu'il y a très peu de bruit, de faire de la musique. Et alors mon rêve, on est là à la radio c'est le média du rêve quand même, donc profitons-en, ce serait de faire monter les musiciens tout en haut et de faire jouer ça avec des cuivres tout en haut, trompette, corps, trombone, le public en bas, et qui écoute ça, retrouvé un peu comme les fanfares de Gabrielli à la tribune de Saint-Marc de Venise à la Renaissance.
Alors je le disais juste avant cet extrait d'Antoine Péker, à la MC2, vous programmez pour cette saison une thématique architecture et musique. Alors Renaud, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, par exemple, à quels événements pourront assister nos auditeurs les plus curieux et les plus attentifs?
Déjà, on aime rêver, donc c'est vrai que se lier l'architecture, la musique, ça paraît très très loin, mais non, en fait, beaucoup de vocabulaires sont proches, le rythme, l'équilibre, hein, c'est des vocabulaires connus des architectes et des musiciens, et cette thématique va se retrouver effectivement plusieurs fois. Je vais simplement citer les titres ou les ensembles. On aura donc très vite, semaine prochaine, Pierre-Laurent Aymard avec l'avenue d'un acousticien et le lien justement entre l'acoustique et les œuvres jouées ce soir-là. Il y aura l'Orchestre des Pays de Savoie, l'ensemble Klang Forum, Aura Orchestra, vous en avez parler et l'ensemble correspondance. Donc tout ça, évidemment, ça se retrouve dans notre plaquette ou sur le site mc2grenoble.fr, et tout ça avec un seul but, lier toutes ces questions du son, de la spatialisation, des espaces à résonance différentes aux matières. Hein. Ça, c'est par exemple ce que vient de dire Antoine dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Hein. Dans un garage hélicoïdal, on va avoir forcément des résonances assez spécifiques. Et c'est un peu tout le but de cette thématique, en effet très particulière de cette année dans la saison.
Alors on est bientôt à la fin de cette émission, on a bien compris le lien étroit entre la création artistique et les lieux qui la voient naître. Alors comme à notre habitude maintenant, on passe à une dernière question que l'on pose à chacun de nos invités ici dans les studios de Radio Campus. Alors Renaud, qu'est-ce que pour vous la métropole grenobloise, ou autrement dit, comment est-ce que l'on perçoit la métropole grenobloise du point de vue de la culture ?
Alors on la perçoit d'une manière assez... comment dire ? On est assez chanceux, puisque mon avis, c'est que... mon avis, évidemment, ma pratique professionnelle, je lis un petit peu les deux, là, pour le coup, dans ma réponse, c'est que hors Paris, on va mettre Paris un peu à part, on est la métropole qui a le plus de salles de spectacle en France, à ma connaissance encore aujourd'hui en 2016, c'est-à-dire qu'on va de salles de 30, 40, 50 personnes jusqu'à 3000, 4000, 5000, 22000 pour le Stade des Alpes en maximum, et ça, c'est extraordinaire. Et là, je parle vraiment de richesse et de diversité culturelle. Si on cite des journaux ou des sites internet qui référencent tous les mercredis l'offre culturelle à venir pour la semaine, on a simplement à regarder le nombre de pages et d'événements et on comprend et l'illustration en tout cas de ce que je dis. Il y a une trentaine de salles de spectacle pour faire simple entre le kilomètre zéro Grenoble à Ville-Sainte et on va dire jusqu'à 20 km autour de Grenoble. Et ça pour moi c'est extraordinaire et donc voilà pour moi le lien entre culture et cette magnifique métropole.
Ce 13e numéro de Gracianopolis est maintenant fini. On souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de cette émission. Merci tout d'abord à vous, Renaud Contrat, d'avoir accepté notre invitation ici dans les studios de Radio Campus.
Merci à vous deux.
Merci également à Antoine Pecker pour l'interview qu'il nous a accordée. Pablo Gomez et Renaud Contrat également de nouveau pour la visite de la MC2. Et on n'oublie pas Emmanuel Le Floch avec lequel on a construit cette émission. Quant à nous, Yvan, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Gracianopolis. En attendant, vous pouvez nous retrouver comme toujours sur notre audioblog mixcloud.com/gracianopolis et sur Facebook. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Campus Grenoble 90.8.